Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
La liberté, c'est d'avoir le temps de faire ce qu'on aime. Et si c'était dans la simplicité que l'on accède au bonheur ? Milan est un voyageur, mais pas tout à fait comme les autres. D'abord, un tour du monde sans argent. Ensuite, une traversée de l'Afrique pour réaliser le rêve des gens. Puis, Compostelle sans bagages. Et tout ça avec une caméra à la main pour partager cette vie de voyageur optimiste à la rencontre du monde et de son humanité. Regarde ailleurs. Donc, regarde ailleurs, c'est élargir sa vision sur le monde, sa vision sur soi à travers les différents parcours de vie. Donc, dans cette émission, j'interviewe des écrivains, des réalisateurs, des photographes, des voyageurs, des marcheurs. Toi, tu es un peu tout à la fois. Je sais pas si tu écris ou pas. En tout cas, je sais que tu réalises, je sais que tu marches, je sais que tu voyages. Dans ton CV de voyageur, plusieurs projets, dont un tour du monde sans argent, une traversée de l'Afrique pour faire un documentaire, et sans doute beaucoup d'autres choses qu'on va découvrir ensemble dans cette émission. Mais je vais commencer par te donner la parole et te demander, peut-être la première fois, qu'est-ce qui a fait que tu as envie de quitter ton pays, l'Allemagne, pour aller voir ce qui se passait au-delà des frontières. Est-ce que tu pourrais m'expliquer d'où vient ce goût, cette envie de l'ailleurs et du voyage et des rencontres ?
Quand j'avais 13 ans, je me retrouvais en France, c'était printemps, et j'ai reçu un cadeau, c'était un Diablo. Et avec ce Diablo, je commençais à m'entraîner en Aix-en-Provence, dans un petit village qui s'appelle Fumaras. Et j'ai découvert que le jonglage, ça me passionne, c'est très beau, cet art de contrôler des objets dans l'air. Et j'ai aussi réalisé, pour apprendre, il faut apprendre des autres. Et comme j'habitais dans un petit village à la campagne de l'Allemagne, un village de 150 habitants, il n'y avait pas d'autres maîtres, il n'y avait pas d'autres gens pour apprendre. Et du coup, très vite, j'ai compris, pour apprendre, il faut rencontrer des gens, il faut se déplacer, il faut aller vers les autres, et surtout, il faut parler des langues étrangères. Et il y a une réunion qui s'appelle la réunion de jonglage internationale. Chaque année, c'est dans un autre pays européen. Et en 2015, c'était en Danemark. Et donc, avec 15 ans, je demandais à papa, est-ce que c'est possible de partir au Danemark avec mon meilleur ami Philippe ? Et ensemble, on est parti avec le cirque de Aachen à Danemark. Et là, je me retrouve, 15 ans, et je vois ce monde, 4000 jongleurs, des workshops, tout le monde, ça parlait anglais, ça parlait français, ça parlait espagnol, ça parlait toutes les autres langues, et moi, je me retrouvais avec mon allemand, et avec un petit peu, je parlais un petit peu anglais, mais là, j'ai compris. Pour pouvoir apprendre, pour pouvoir voyager, pour pouvoir s'offrir le monde, d'abord, il faut apprendre les langues étrangères. Et là, l'envie est née d'aller apprendre l'anglais, français, beaucoup plus tard que l'anglais. Et là aussi, j'ai pris goût au voyage. J'ai dit, OK, quand tu te places, quand tu as un projet concret, quand tu veux apprendre quelque chose, ben, tu te places et tu reviens avec tout ça, avec des nouvelles compétences.
Donc toi, c'est les arts du cirque, hein, le jonglage, tu me parles d'un diabolo, hein, c'est comme ça que tu as vraiment commencé à te mettre en mouvement et aller à la rencontre des gens.
Ouais, le diabolo, c'est un peu... c'est beau, hein, c'est diabolo. Aujourd'hui, ça voyage encore avec moi, j'ai 34 ans maintenant, et je l'ai depuis 14 ans, quoi. Il est présent dans mon sac, dans mon quotidien, et après, le diabolo, c'est une forme dans le cirque, après le jonglage avec des balles, après, je forme un duo avec mon ami, on a fait des shows dans la rue, en France, en Belgique, on faisait des festivals, donc c'était mon première façon de voyager, c'était à travers l'art de cirque.
De voyager, mais aussi de gagner de l'argent.
Ouais, c'est fou quand t'as 16 ans, 17 ans et tu commences à gagner de l'argent. D'abord, tu vas être. C'est un anniversaire, après, c'est pour les amis. Après, quelqu'un va te dire ah, j'ai un salon, tu veux faire un show, tu vas avoir 200 euros, 300 euros, 400 euros. Et c'était beau de pouvoir gagner mon argent aussitôt avec de l'art.
Donc, artiste dans un premier temps, jongleur, et j'imagine que le jonglage t'a pu ouvrir beaucoup de portes dans la dynamique du voyage. Quand tu arrives avec ton diabolo quelque part, ça permet de créer facilement le lien.
C'est vrai, le jonglage, c'est une porte d'entrée magique. Et Une histoire, quand j'avais 20 ans, je pensais où je vais vivre, où, c'est quoi ma prochaine base de vie. Et Berlin, c'est la ville, c'est le port d'Europe. Il y a trois écoles de cirque. Il y a plus de gens qui dansent le tango qu'à Buenos Aires. Il y a plus de gens qui dansent le salsa qu'à Cuba. Il y a le 150 théâtres. Il y a tout. Et surtout, tu peux, pour moi, c'était important de savoir que toutes les soirées, tu pourrais participer à une réunion de jonglage. Donc, une raison pour laquelle je suis allé à Berlin, c'était la présence de jongleurs. C'était ma grande sœur était là. Et en 2008, je suis installé à Berlin. Et j'ai commencé ma vie là-bas. Et j'ai continué à jongler, rencontrer des gens, faire des voyages à travers le jonglage. Et dans tous les voyages, d'être réalisateur, c'est une chose. Et d'être réalisateur, jongleur, magicien, c'est encore d'autres choses. Parce que c'est des outils qui te permettent de rencontrer l'autre autrement. Imaginons avec mon frère de voyage, Mohamed Ilmas, on se retrouve dans des villages en Afrique. Et on filme, dans le premier abord, on ne filme pas. On arrive, on offre la magie, on offre un sourire, on fait un jeu de diablo, on rassure le gens, on donne quelque chose. Parce que filmer, prendre les images, c'est prendre les images, tu prends quelque chose. Donc on aime bien d'avoir cet échange, d'offrir quelque chose à travers la magie, l'arc du cirque, le jonglage, et après tourner.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Alors ça, c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion à poser aujourd'hui sur le tourisme et sur le voyage. Souvent, l'étranger va et prend. Consomme cette notion de consommateur, on va prendre des photos, prendre des vidéos, payer un service, payer un hôtel. Ce qui fait un peu votre particularité ou ce qui fait ta particularité dans le voyage, c'est déjà voyager seul ou à deux, sans partir dans un circuit organisé et vraiment te mettre à disposition des gens que tu rencontres et prendre le temps de les rencontrer en étant dans cette dynamique donc de magie, tu parlais de magie, de faire des spectacles, de t'offrir en fait, de t'offrir à l'autre et vraiment cette dynamique de créer un lien. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qui vous anime dans le voyage, c'est cette rencontre qu'on peut faire et comment est-ce qu'on peut se sentir nourri et grandi dans un échange.
Si on revient en 2014, Mohamed et moi, on se retrouve au pied des Tours Eiffel, prêts pour le tour du monde en 80 jours sans argent. Et voyager sans argent, c'est forcément accepter de recevoir l'aide des autres.
Alors on va en parler, ça, c'est très intéressant. Ce tour du monde en 80 jours. Donc en 2014, tu rencontres Mohamed en faisant du couchsurfing, je crois, quelque part en Allemagne. Vous vous retrouvez tous les deux chez toi, il me semble. Et là, un projet fou naît, hein, se dire, bah tiens, on va faire un tour du monde sans argent en 80 jours. C'est ça?
C'est presque ça. Et c'est encore plus fou parce que c'était 2010. Moi, j'étais très connecté avec Couchsurfing, je rencontrais le fondateur, j'organisais des réunions, j'étais ambassadeur, et je suis tombé amoureux de Couchsurfing et toutes les possibilités que ça peut offrir aux gens, pour le hôte mais aussi pour le voyageur, d'avoir cet échange culturel très profond, très fort, et de rencontrer des gens chez toi qui sont dans leur projet, dans leur mission, dans leur tour du monde ou autre. Et c'était très nourrissant pour moi. Et j'ai Mohamed Ilmas, un Strasbourgeois, un réalisateur, un aventurier, un homme... plein d'optimisme, on a passé 3 jours ensemble et on s'est dit tiens, quand je vais finir mes études, on va faire un voyage ensemble. Moi je me préparais pour un voyage de plusieurs années et lui il se préparait, il pouvait pas prendre autant de temps off, du coup le temps était limité, c'était 80 jours on a rajouté cette difficulté sans argent, on a fait un test Strasbourg-Berlin, ça s'est bien passé et on s'est dit on y va. Et il faut imaginer quand même, on a passé 4 jours ensemble seulement, on s'est vu 4 jours. Et le reste, c'était par téléphone, par Skype, par email, on va faire ci et ça. Et quand on se retrouvait pour le grand départ à Paris, on s'est rendu compte que waouh, on part pas avec notre papa, on part pas avec notre mère amie d'enfance, on part avec quelqu'un avec lequel on a effectivement passé très peu de temps ensemble. Et dans un tour du monde sans argent, c'est vrai qu'il faut apprendre à recevoir. Et c'est plus difficile de recevoir de donner. Pour beaucoup de gens aussi, c'était pour moi plus difficile parce que tu reçois la nourriture, tu reçois un hébergement, tu reçois un déplacement, tu te places en autostop. Et qu'est-ce que tu peux offrir? Tu peux offrir l'écoute, tu peux offrir un sourire, des mots d'encouragement, active listening. Et après, le jonglage, c'était pour moi quelque chose de très fort pour offrir. Tous les jours, merci, 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 à travers ça.
Pourquoi avoir fait le choix de voyager sans argent ? Donc c'est une contrainte, hein, comme tu l'as dit, tu te rajoutes dans le voyage. Pourquoi avoir fait ce choix-là ?
Bonne question. Pourquoi voyager sans l'argent ? On a fait énormément de moments de voyage avant. Mohamed, il a fait 80 voyages. Mohamed, il a fait 80 pays avant. Moi, j'habitais dans 7 pays. On a beaucoup appris à voyager à travers Couchsurfing. C'est déjà dormir chez l'habitant, rencontrer l'autre. Et c'est déjà une façon autre de voyager. Mais sans argent, pour nous, c'était la meilleure façon de rencontrer des gens. Et de ma part, je rencontrais Guillaume et Nance de Nuit Culottée en 2013-14. Et ça m'a beaucoup inspiré de partir sans argent. Parce que quand tu n'as pas d'argent, tu es obligé de parler avec les autres. Tu es obligé de donner le meilleur de toi.
Alors cette notion de sans argent, c'est vraiment choisi, hein. C'est pas quelque chose qui est subi, vous avez fait le choix de partir sans argent. Quand on vous voit sur les images ou même dans le documentaire, vous êtes très propre sur vous avec un petit nœud papillon à faire du stop au bord des routes avec cette envie de rencontrer les gens. Mais sans argent, effectivement, ça oblige d'apprendre à demander. Comment est-ce qu'on fait pour demander ? C'est pas facile.
Déjà, comment on fait pour apprendre ? Comment on fait pour demander ? Déjà dans l'esprit de ne pas prendre les choses personnelles. Quand tu demandes dans la vie de tous les jours, c'est rare que tu vas recevoir de non. Normalement, c'est les gens vont dire oui, tu demandes des petites choses, tu sais que l'autre va dire oui. Mais dans un voyage en Iran, au Pakistan, quand tu retrouves en faire du stop, il y a des milliers de voitures qui passent, c'est des milliers de non. Et si tu demandes aux gens, je peux dormir chez toi, et tu reçois des non, c'est difficile au début. Mais après, on apprend de ne pas prendre les choses personnelles. Cette personne, on ne peut pas t'aider pour une raison ou une autre, et c'est OK. Mais tu vas garder le bon cap, tu vas garder le sourire, et tu ne vas pas avoir amené cette tristesse ou la déception à la prochaine personne que tu vas demander. Ça, c'est très important, de ne pas prendre des choses personnelles. Et par rapport de voyager avec un propre, il y a un autre voyageur qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle Ludovic Hubler. C'est un Français qui a fait un tour du monde entre 2003 et 2008, 5 ans en stop. Il a créé un superbe livre et lui aussi était déjà dans cet esprit de voyager mais propre pour pouvoir établir la confiance avec les autres. C'est bien d'être propre, les vêtements, de sentir plus ou moins bien, d'avoir des habits clean, intéressants, stylés. Ça attire le regard, ça attire la curiosité et ça t'aide aussi d'établir la confiance. Et aussi ça t'aide quand tu fais un tour du monde ou autre d'avoir des habitudes pour s'ancrer. Parce que tu, quand même, le cadre change tous les jours. Un tour du monde en 80 jours sans argent, c'est rapide. Tu te places tous les jours. Et d'avoir des habitudes comme se nettoyer, d'être propre, c'est bien.
Est-ce que ton state of mind, ton état d'esprit va influencer le quotidien ? Est-ce que tu as l'impression que quand toi tu es centré, positif, joyeux, rayonnant, plus de portes vont s'ouvrir que les matins où tu vas te réveiller un peu grincheux, grognon, de mauvaise humeur. Est-ce que son énergie, est-ce que son humeur va avoir un impact sur les gens que tu vas rencontrer ou sur les portes qui vont s'ouvrir ?
Tout à fait. C'est ce que tu penses, c'est ce que le sourire que tu as ou tu n'as pas, l'optimisme que tu as ou pas, avec lequel tu traverses la journée, tu rencontres les gens, ça a un impact très fort. Le monde, c'est une réflexion de toi en quelque sorte. Et pour nous, on s'appelle les Optimistic People parce qu'on est très optimiste. On croit à l'humanité, on croit qu'il y a des gens bien partout dans le monde. On croit qu'on peut apprendre de tout le monde. Et quand on rencontre des gens, par exemple, on peut avoir des stéréotypes. On se retrouve avec Mémoire dans une station d'essence. C'est minuit, il fait froid, il y a très peu de gens. Et il y a une femme, une jolie femme qui arrive, blonde, des yeux bleus. Et moi, je peux penser, pas la peine de la parler, parce qu'elle va se dire deux hommes avec de la barbe, non. Et après, quand tu observes cette pensée qui vient, tu dis, OK, j'accepte cette pensée, mais je vais de toute façon, et je ne vais pas me faire de stéréotypes avant. Et tu dis, bonjour, je m'appelle Milan, ma mère, on fait le tour du monde sans argent, est-ce qu'on peut partir avec toi ? Et avant de la parler, on essaie toujours de cultiver des pensées et des ressentis positifs. Je te respecte, je te fais confiance, je t'aime. Et avec cette approche-là, non-verbale, on a fait le tour du monde en 80 jours sans argent.
Ça paraît complètement incroyable, parce qu'un tour du monde sans argent, ça veut dire effectivement se faire payer les billets d'avion, se faire payer les billets de train quand il y a besoin de se déplacer, parce que 80 jours pour un tour du monde, c'est quand même très rapide. Donc on rencontre des gens qui sont vraiment là pour nous aider et soutenir ce projet un peu fou. Comment les gens réagissent quand tu abordes dans une station essence, justement en pleine nuit, cette jolie blonde, quand tu abordes la route, une voiture s'arrête et tu leur dis « je fais le tour du monde en 80 jours ». Quelle est la réaction des gens de voir comme ça deux barbus avec un nœud papillon faire un projet complètement sensé.
Les réactions des gens, c'est très varié. Des gens qui disent c'est fou, c'est absolument fou. Il y a d'autres gens, il y a pas mal de gens qui nous aident. C'est des gens qui ont des rêves qui ne sont pas encore réalisés. Souvent, c'est des gens qui rêvent de partir longtemps, de changer leur vie. Et quand ils nous aident, c'est dans quelque sorte de vivre un moment, un instant, 10 minutes, 15 minutes, quelques heures, cette aventure avec nous. Et après quelques heures dans l'aventure, il nous dépose, il dit « Mais comment vous allez continuer maintenant ? Je peux vous avancer encore plus ?» Il participe dans notre aventure qui devient la sienne aussi, ouais, collective.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Est-ce qu'il y a cette notion de synchronicité ? J'ai l'impression que quand on se met en chemin sans avoir un plan précis, hein, tout peut arriver, tout est possible. Quand on part avec une direction claire, quand on connaît son chemin ou quand on ne le connaît pas, j'ai l'impression qu'il y a plus d'imprévus, plus de magie qui opère quand on se lance comme ça, sans filet. Le filet, quelque part, apparaît tout seul.
C'est très intéressant. La magie du voyage opère surtout quand tu es présent. Dans un voyage comme le tour du monde en 80 jours sans argent, très tôt, on peut se poser des questions. Comment on va traverser le Pakistan, l'Iran? Comment on va trouver des billets d'avion? Comment on va traverser de l'océan? Comment on va faire si ça fait moins 25 degrés ou plus 45 degrés dans le désert en Pakistan? Mais ce genre de questions, on a essayé d'éviter et de se dire on va trouver la solution au moment qu'on s'arrive. On va avoir des imperméables au moment où la pluie arrive. On va avoir un endroit où dormir quand ça fait moins 25 degrés. Et on va rencontrer des gens qui sont tellement généreux qui disent voici, j'aime votre mission, tenez un billet d'avion. Et ça marchait.
Alors on va revenir sur ces anecdotes, sur ces histoires et sur ces rencontres, hein, mais ce que je trouve aussi très intéressant dans ce que tu dis, c'est peur, ne pas avoir peur. Tu parles de questions, ne pas se poser des questions, parce que se poser une question, c'est déjà quelque part anticiper quelque chose qui n'arrivera peut-être pas, et c'est un facteur limitant. Je trouve qu'on est quand même très souvent dans nos projets limités par nos peurs.
On a rencontré un homme dans le Tour du Monde qui a dit en anglais « Fear is the opposing principle of life ». C'est la peur, c'est vraiment les valeurs opposées de la vie. À cause de la peur, la peur nous empêche de faire des choses. Et c'est ok d'avoir peur, c'est ok de sentir la peur, mais ce qui est important pour nous, c'est pas nourrir la peur. On la perçoit, et après on regarde vers la lumière, on regarde vers les solutions, on regarde, on se retrouve ensemble, on parle, et on ne la nourrit pas.
Il y a cette notion aussi de challenge, de sortir de sa zone de confort. J'ai vraiment l'impression que dans ta vie, tu essaies toujours de trouver des petits projets, hein, des choses qui vont te permettre de te tester dans tes limites et de te rendre compte aussi à quel point l'homme a une capacité d'adaptation complètement incroyable. Donc tu l'as découvert dans le tour du monde, en passant par différents biotopes, différents pays, différentes cultures, différentes langues. Il y a quelque chose d'incroyable, c'est que partout où l'homme se retrouve, on s'adapte.
On s'adapte partout. Et surtout, nous, on part avec très peu d'affaires personnelles. On est tellement passionné par l'audiovisuel et on est tellement passionné de pouvoir offrir la meilleure qualité d'image, de son aux spectateurs que chaque fois qu'on fait notre sac, on laisse la deuxième chemise, le jeans, on laisse tout ça à la maison et on part avec très peu de choses qui peuvent nous offrir un peu de confort. Donc on est déjà habitué depuis des années de partir avec très peu de confort. Mais dans le voyage, on trouve toujours des moyens de s'adapter. Et le corps est beaucoup plus fort qu'on pense. Notamment, là, on aime beaucoup de se baigner dans le froid, de pratiquer la méthode de Wim Hof, de s'immerger dans le froid, de faire des balades dans les Vosges avec un t-shirt et en tongs. Et c'est dans le, pour nous, c'est vers la direction de la liberté. Quand on voyage, et on a besoin d'un jacket ou un pull ou beaucoup de habits, on a moins de liberté et on n'a pas suffisamment de place pour le, l'équipe d'audiovisuel. Donc, on se lance des petits challenges. On peut vivre des aventures pendant l'hiver en Alsace, à Strasbourg. Quand on sort avec un t-shirt, on peut...
Mais c'est vrai que toi, auditeur, tu le vois pas, mais Milan est arrivé chez moi, donc là, on est dans mon appart, dehors, quand je regarde par la fenêtre, c'est tout blanc, il a neigé cette nuit, tu arrives en tongs et en t-shirt, donc il y a aussi effectivement cette envie de minimalisme, hein, de te prouver à toi-même que finalement on n'a pas besoin de tout cet appareil matériel, ou quelle est la motivation principale pour pouvoir vivre comme tu le fais là aujourd'hui, en short et en t-shirt, en t-shirt et en tongs. Pourquoi ? Quelle est l'essence ? Quelle est l'idée ? Quelle est la vibration qui t'anime ?
Le minimalisme amène à la liberté. Où est-ce que ça a commencé ? Ça a commencé en 2013-14. J'étais à Berlin, j'ai fini mes études. Et j'habitais dans un appartement de 140 mètres carrés avec deux autres potes. Et j'avais beaucoup d'affaires. Beaucoup d'affaires. Des belles objets, beaucoup de vêtements. Mais je me retrouvais dans une situation où je dis « Ok, je suis dans ma vingtaine. » Et je gère beaucoup de matière. Je repasse des chemises, je déplace des affaires, je passe du temps à chercher des choses sur Internet, des acheter, de vendre, de déplacer, de nettoyer. Je me dis, ok, c'est bien d'avoir des objets comme ça, mais tout ce qu'on a, ça prend beaucoup de temps à gérer. Et je rêvais d'avoir un chapitre dans ma vie où c'est pas de gérer la matière, c'est d'avoir des expériences nourrissantes, d'apprendre. Et la journée a 24 heures. Et plus tu as des choses, plus tu vas gérer la matière. Et moi, je rêvais d'avoir un autre chapitre. Donc déjà, en 2014, on a vendu. On a quitté l'appartement. On a vendu 95% des affaires. Et depuis 2014, donc ça fait 6 ans, 7 ans, je me retrouve dans une vie où c'est une vie de digital nomade. C'est une vie de nomade en sac à dos. Et un sac à dos carry-on, c'est un sac à dos de 7, 10 kilos, mais 30 litres, petit, rempli avec tout ce qu'il faut pour... rempli avec tout ce qu'il faut pour travailler, pour faire le jonglage, pour faire le yoga, pour faire la magie, pour garder des bonnes habitudes, un peu de curcuma, un peu de date, un peu de thé vert, mes aliments préférés. Et c'est tellement beau de se déplacer comme ça, avec un sac à dos. Là, l'année dernière, on est allé en Inde pour devenir professeur de yoga. On est allé et on fait un troc. Donc des trocs, c'est des échanges où tu proposes ton service pour obtenir un autre, et donc on a fait un troc pour devenir professeur de yoga, on a fait un troc avec nos compétences audiovisuelles, et de venir avec un sac et de pouvoir produire partout dans le monde et travailler pour les gens sur le lieu, c'est un bonheur magnifique.
Digital nomade, donc toi maintenant tu te déplaces avec un sac de 7 ou 8 kilos, et dans ton sac tu as tout ce dont tu as besoin pour pouvoir parcourir le monde. En fait, ta maison c'est ton sac, et ta maison c'est le monde en fait.
Ouais, la maison c'est le sac de quelque sorte. Dans le sac, c'est il y a la caméra, les objectifs, tout l'équipement son, il y a le MacBook, il y a 2-3 fringues pour courir, mais il n'y a pas de veste vraiment, il n'y a pas de gros pull, monopode, tripod, donc il y a très peu de choses. Et ça me rend heureux, ça me rend libre. Et de pouvoir produire, pour pouvoir jongler partout dans le monde, c'est exceptionnel.
Ta maison et ton bureau aussi, ton lieu de travail, tout en fait tient dans ce sac de 8 kilos. Il y a à plusieurs moments dans cet échange, tu utilises le mot libre, liberté. Qu'est-ce que c'est que pour toi Milan, être libre, ou qu'est-ce que c'est que pour toi Milan, la liberté ?
La liberté, c'est d'avoir du temps. La liberté, ça, c'est d'avoir du temps pour les choses qu'on aime faire. Et la liberté, c'est d'avoir le temps pour apprendre ce qu'on a envie d'apprendre. La liberté, c'est aussi de passer du temps avec les gens qu'on aime, la famille, les amis. La liberté, c'est avoir le temps de se réveiller le matin et de s'offrir à son corps et son esprit une heure et demie de yoga, de faire un jeûne intermittent, de ne pas manger tout de suite. La liberté, c'est d'avoir le temps pour avoir ses bonnes habitudes, comme le yoga, comme chanter, comme prendre le temps de cuisiner. La liberté, c'est une liberté de mouvement. Aujourd'hui, je peux travailler partout. Pour revenir à cette histoire, quand j'étais jongleur, j'ai appris l'anglais. Après, j'habitais en France pour apprendre le français. Après, j'habitais en Espagne, en Cuba, en République dominicaine pour apprendre l'espagnol. Et je trouve aujourd'hui, si tu parles plusieurs langues, si tu as un setup libre, si tu es un réalisateur, cameraman indépendant qui peut travailler partout et faire des travaux professionnels, ça te donne une liberté énorme, mobilité. Si aujourd'hui j'ai fini mon projet quelque part, je peux complètement changer ma vie et d'être travailler ailleurs.
La liberté. Alors, il y a quelque chose que tu as dit qui est finalement très sage, c'est d'avoir le temps. Je me souviens de cet Africain que j'avais pu rencontrer. Je me rappelle, j'avais, je crois, 17 ou 18 ans. J'arrive en Afrique avec une montre. Et l'Africain me regarde et me dit, c'était au Togo, un Togolais me dit, mais vous, en Europe, vous avez la montre, nous, en Afrique, on a le temps. Et c'est vrai que cette notion du temps, c'est la seule chose ou une des seules choses qu'on peut pas vraiment acheter.
Tout le monde a 24 heures et c'est à nous à décider comment on va l'utiliser ce temps. Et un projet qui était le projet l'audiovisuel le plus important pour moi, jusqu'à là, c'était Arrive Dream Africa. C'était un voyage que j'ai aussi fait avec mon frère de voyage, Mohamed Elmaz. Ensemble, on est parti en 2016 à Cape Town avec cette idée un peu fou de réaliser des rêves de gens. On a pas mal vendu notre premier livre, Le Tour du Monde en 80 jours sans argent. On s'est dit, avec les bénéfices du livre, on va traverser l'Afrique et on va demander aux gens tout simplement « What is your dream ?» C'est quoi ton rêve ? Et ça marchait. On a traversé 9 pays, on a rencontré des gens, on a réalisé des rêves très différents, très intéressants. C'était nourrissant pour nous, c'était fou, très, très important pour les autres. Et là, on s'est dit « Ok, on passe tout notre temps en pensant aux autres. On pense aux autres toute la journée, comment on peut l'aider autres. » Et ça, c'était ces 3 mois, 4 mois de voyage en Afrique, c'est un des temps le plus exceptionnel. Penser à l'autre, prendre son temps pour aider l'autre.
C'est vrai que quand on entend parler de voyage sans argent, certaines personnes peuvent voir le côté opportuniste. Cette notion de « attends, les mecs, ils font un tour du monde, ils se font tout payer ». On ne voit pas forcément la dimension du don personnel qu'on fait. Parce que pour arriver à obtenir un ticket, un lit, un repas, on donne énormément de sa personne en temps, en présence, en jeu, en parole. La magie, le jonglage font partie de ces outils qu'on va utiliser. Mais le deuxième projet, I Have a Dream Africa, donc est un projet vidéo aussi. Là, l'idée, c'était vraiment de ne plus prendre, mais de donner, d'apporter. Et je crois que c'est important aussi à le souligner, à souligner ça dans votre réalisation à Mohamed et à toi. Donc deux documentaires, un tour du monde sans argent, mais non pas pour prendre, simplement pour montrer que c'est possible et qu'on peut trouver des belles âmes partout sur la planète. Et le voyage à I Have a Dream Africa, là, c'était vraiment demander une question en fait essentielle. Quel est le rêve? Quel est ton rêve? Et à travers cette simple question, raconte-moi quelques anecdotes, quelques histoires ou quelques rêves qui vous ont marqué, qui vous ont interpellé et que vous avez réussi à réaliser.
I Have a Dream Africa, c'était beaucoup plus facile de donner que de demander. Même si on a beaucoup donné aussi pendant le tour du monde, de voyager avec un budget à disposition pour aider les autres, c'est magnifique. De marcher pour les autres et de rencontrer des gens avec cette question « Ah, c'est quoi ton rêve ?» C'était magnifique. Et pas toujours facile, parce qu'un rêve, ça peut être très vague. Un rêve, ça peut être « Je rêve d'avoir que mon pays est en paix, que mon continent a plus d'accès à l'éducation. » C'est moi, le gens qui disent « J'aimerais bien être l'homme le plus riche du monde. » C'est pas si simple de trouver des rêves réalisables, des rêves... réalisable pour nous avec notre budget, avec nos temps. Quelques exemples qui m'ont marqué pendant ce traverse de l'Afrique. Un exemple, on est à Tanzanie et on rencontre une mama qui s'appelle Mama Jen. Elle vit dans une petite maison, baraque presque, dans nulle part, entourée avec la terre rouge. Et on arrive là-bas, on est introduit par une contact et cette mama, elle parle très peu anglais. On parle avec son fils et on comprend le rêve de Mama Jen, c'est de fixer son toit parce que la saison de pluie arrivait et elle ne pourrait pas dormir avec cette pluie. Et du coup, on a décidé de changer les toits. Et c'était beau. Tu enlèves le toit, on a acheté la toiture, on a acheté ce qu'il fallait et on a fait ça. Et de se retrouver là en train de bricoler avec des gens locaux, de communiquer. Et après, on a rajouté des panels solaires. Et après 3 jours, c'était fait.
La symbolique est sublime, mettre un toit, offrir un toit à quelqu'un, c'est quelque part le sécuriser. et lui permettent de vivre une vie plus décente. Cette notion des rêves, je suis curieux, est-ce que c'est les mêmes types de rêves qu'on observe dans les pays en développement que dans les pays développés? Est-ce qu'on observe le même type de rêve en Afrique où les gens n'ont pas forcément accès au matériel qu'en France ou dans des pays où on a tout, où on est dans l'opulence?
Très intéressant. Est-ce que le rêve en Afrique, est-ce que le rêve en Afrique ressemble au rêve européen? Normalement, pas du tout. On a posé cette question à Paris, c'est des réponses. J'aimerais bien écrire un livre, faire le tour du monde, faire un tour en bateau, être l'homme le plus riche du monde. Non, j'ai pas de rêve, j'ai déjà tout. Donc soit c'est des rêves matérialistes, ou soit... Ouais, c'est toujours des rêves pour soi. Par contre, en Afrique, les rêves, c'est beaucoup tourné vers les autres. Je rêve pour ma fille, pour mon village, je rêve pour le pays en soi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.